Le journal Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour.
À la une, le Covid, le confinement et les restaurants fermés encore pour un bout de temps. Tant de repas en moins, ce sont les agriculteurs qui trinquent. Manque à gagner estimé à 15 milliards d'euros. Les autres titres, Hélène ?
La banlieue, c'est pas rose. Encore pire avec la crise sanitaire. Non-assistance à territoire en danger, risque de décrochage à la République, de repli identitaire. Une centaine d'élus écrivent à Emmanuel Macron pour toucher 1% des 100 milliards de la relance. Une semaine après la victoire de Joe Biden, Trump devant les caméras, pour la première fois sous-entend la possibilité de sa défaite, mais continue de s'accrocher. Le Mexique fait partie des pays qui le suivent, on verra pourquoi. Et puis Bojo qui perd son cerveau, Dominique Cummings a fait ses cartons hier, peut-être une chance pour un Brexit négocié.
Et à 8h20, sur France Inter, nous recevrons Nicolas Bay, député européen Rassemblement National, avec lui question sur le maintien du confinement pour 15 jours au moins, la stratégie du gouvernement face au virus. Nicolas Bay nous dira ce qu'il en pense.
France Inter.
Le confinement prolongé avec des restaurants, on le sait déjà, qui ne rouvriront pas au 1er décembre. De quoi fragiliser aussi les agriculteurs. Ce sont eux en début de chaîne. Des centaines de millions de repas non servis dans les fermes. C'est un manque à gagner estimé à 15 milliards d'euros. Pas de resto, pas de frites. Les cultivateurs de patates doivent s'adapter. Comme ici, près de Reims. Reportage France Bleu Champagne d'Aurélie Jacquan.
Des palettes et des palettes de pommes de terre empilées. C'est ici que je rencontre Thierry Poncelet. Le légume ne représente que 7 des 250 hectares de son exploitation, mais en termes de chiffre d'affaires...
C'est ce qui fait que l'exploitation tourne bien pour nous.
Toutes ces pommes de terre sont vendues localement et quasiment toutes à des restaurants.
Ah ben là, c'est une grosse claque, puisque le volume que je vends avec les restaurants, je le déleste sur les magasins, mais le chiffre d'affaires ressorti beaucoup moindre. Mon prix moyen restaurateur, je suis près de 550 euros tonne, alors qu'au magasin, je vais être à moins de 300.
Et même les grandes surfaces achètent beaucoup moins en ce moment.
Le peu que j'ai, ils sont tous en promotion. C'est leur centrale d'achat qui leur fournit, à très bas prix. Et du coup, moi j'ai moins de volume qui sort en ce moment.
50% de moins.
Ça va se ressortir sur nos trésoreries en fin d'année, là.
Et si les restaurants ont des aides de l'État liées au Covid, ce n'est pas le cas des agriculteurs.
Je vois à chaque fois qu'il y a des choses à remplir, on n'a jamais la bonne case pour nous. Parce que bon, on est multi-production, on est multi... Voilà, ça me semble assez compliqué de dire l'impact au niveau des pommes de terre par rapport à l'exploitation. Ça, on peut le faire, on peut le sortir, mais qu'est-ce qui va justifier des aides de l'État, quoi.
Thierry a conscience qu'il sera donc obligé de puiser dans ses réserves pour maintenir son exploitation à flot, d'autant qu'il subit aussi une mauvaise année pour les céréales et les betteraves.
Le confinement commencerait-il à peine à porter ses fruits? Le nombre de patients en réanimation se stabilise, mais toujours 95% des lits occupés et 467 décès en 24 heures. Il y a aussi des angles morts, les quartiers populaires, avec cet appel de détresse lancé aujourd'hui par une centaine d'élus. Lettre ouverte au président Macron, 2 ans après le plan banlieue, 3 ans après l'appel de Grigny. Rien n'a changé, disent-ils, et la crise sanitaire empire les choses. Explosion des demandes d'aide alimentaire, du chômage, du nombre d'allocataires au RSA. Il y a, disent-ils encore, non-assistance à territoire en danger, le risque d'un décrochage à la République et du repli identitaire. Pour faire face, les élus demandent à toucher 1% des 100 milliards d'euros débloqués dans le plan de relance. Clémence Gourdon-Négrini.
Cette enveloppe de 100 milliards d'euros annoncée par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19. 1% pour les quartiers prioritaires, 1 milliard d'euros donc. Dans leur lettre, les signataires listent les actions qui devront être prioritaires. Prioritaire pour recevoir cet argent. Il y a les associations dédiées aux jeunes et aux publics en difficulté, la création de comités locaux de solidarité dans les villes les plus pauvres et le soutien à la création de maisons médicales et centres de santé. L'argent devra aussi servir à aider les acteurs de l'insertion professionnelle, à développer un plan national de lutte contre l'illettrisme ou encore à renforcer les programmes d'éducation aux médias. En échange, les élus et membres d'associations proposent de créer un conseil national des solutions pour rendre compte chaque trimestre des résultats de ces nouvelles actions et éviter qu'il soit encore dit que l'argent distribué dans les quartiers est jeté en l'air.
Une crise sanitaire et son lot d'images inhabituelles. Hier soir, c'était celle de ces catholiques. Prière de rue en plein 6e arrondissement de Paris, devant l'église Saint-Sulpice. Les fidèles demandent la réouverture des églises pour la messe et comptent se rassembler ainsi tout au long du week-end. Interdit, rappelle le ministre de l'Intérieur, qui n'exclut pas de faire intervenir les forces de l'ordre. Gérald Darmanin doit recevoir lundi matin les représentants des principaux cultes.
Il est 7h05, le journal Hélène Roussel. Hélène, c'est la première fois qu'il parle à la presse depuis l'annonce de sa défaite il y a une semaine.
Donald Trump, dans les jardins de la Maison Blanche hier, alors que New York envisage de fermer à nouveau les écoles et que le pays se bat contre une flambée épidémique, il parle du Covid, du vaccin, surtout pour très bientôt. Donald Trump qui, dans une phrase pleine de sous-entendus, « le temps nous dira quelle administration nous aurons », évoque donc pour la toute première fois la possibilité de sa défaite. Mais il s'accroche toujours, officiellement ne concède rien. D'ailleurs, il n'exclut pas de rejoindre ses partisans qui manifestent aujourd'hui à Washington. Alors que Joe Biden a franchi hier la barre des 290 électeurs avec l'Arizona en bonne voie pour remporter aussi la Géorgie, sur la scène internationale, même la Chine a fini par reconnaître la victoire du démocrate. Les pays qui soutiennent encore Donald Trump se retrouvent isolés, à l'instar du Mexique. Les questions migratoires au centre, le président López Obrador joue la prudence et préfère attendre. À Mexico, correspondance Emmanuel Stils.
Vamos a esperarnos. Si todavía no termina el proceso electoral.
Nous allons attendre, le processus électoral n'est pas terminé. C'est la prudence insolite manifestée par López Obrador. À contre-courant de l'enthousiasme de ses concitoyens pour la victoire de Joe Biden, le président mexicain se borne à répéter qu'il entretenait une bonne relation avec Trump. Et il réalise une interprétation très extensive de la portée que pourraient avoir des félicitations au président élu.
Ce serait irresponsable de nous prononcer pour l'un ou l'autre candidat. Ce n'est pas notre rôle. Comment pourrions-nous agir comme des juges ?
Les propos de López Obrador ont donné lieu à maintes interprétations. D'aucuns disent que le président souhaitait la réélection de Trump, craignant que Biden et les démocrates ne s'immiscent dans les politiques internes du Mexique en matière de sécurité, de droits de l'homme et d'environnement. Mais d'autres considèrent que le président mexicain protège son pays face à la menace d'un voisin qui peut encore lui causer beaucoup de tort ces deux prochains mois. Si le Mexique n'intervient pas dans les affaires des États-Unis, ceux-ci devraient le laisser en paix. Tel est le credo de López Obrador. Mexico, Emmanuel Stils, France Inter.
Et c'est dans ce contexte que Mike Pompeo entame une tournée en France aujourd'hui, avant la Turquie ou encore Israël, visite qui sera scrutée car le secrétaire d'État américain a vivement critiqué les dirigeants trop promptes à féliciter Joe Biden, à commencer par Emmanuel Macron. La France en alerte terroriste maximale et un texte d'Emmanuel Macron hier soir, son hommage aux victimes des attentats du 13 novembre se termine par un appel à ne rien céder. La lutte contre le terrorisme jusqu'au Sahel, Barkhane frappe un grand coup, Bagh, Moussa, l'un des grands chefs militaires d'Al-Qaïda, tué mardi. Et on apprend ce matin que l'armée française a également tué une trentaine de djihadistes dans la région de Mopti, au centre du Mali. Bojo perd son gourou, son cerveau politique. Dominique Cummings, fervent partisan d'un Brexit dur, conseiller en chef du Premier ministre britannique, a fait ses cartons hier et a quitté le 10 Downing Street. Alors que les négociations reprennent à Bruxelles lundi, c'est peut-être une rupture dans la stratégie sur ce Brexit qui dominait jusqu'ici, Richard Place, celle de la confrontation.
Il a bien mis en scène son départ hier soir. À la nuit tombée, il est sorti par la fameuse porte du 10 Downing Street, un carton dans les mains, celui dans lequel un employé licencié met généralement ses effets personnels. Sauf que ce n'est pas un simple employé qui s'en va. Dominic Cummings, c'est le cerveau du Brexit. Son départ est sans doute de nature à améliorer les discussions en vue d'un accord avec l'Europe. L'Union européenne, c'est tout ce qu'il déteste. Des institutions, des fonctionnaires, des règles. Lui, ce qu'il veut, c'est décider, réformer, sans négocier, sans même consulter. Ce qui lui vaut l'animosité de très nombreux députés de la majorité ici. Certains affirment clairement leur satisfaction en le voyant partir. L'un d'entre eux a même appelé Boris Johnson à en profiter pour se ressaisir. Ce qui s'est joué ces dernières heures dans la résidence du Premier ministre, c'est aussi un affrontement entre sa compagne, Carrie Simmons, ancienne directrice de la communication des conservateurs, et le clan Cummings. Cette fois, Boris Johnson n'a pas écouté son conseiller. Londres, Richard Place, France Inter.
Allez, pour finir, coup d'œil sur le classement des skippers dans le Vendée Globe. Le Britannique Alex Thompson, toujours en tête, suivi du doyen Jean Le Cam, qui tient la corde. Yes, we cam, comme c'est écrit sur son vieux bateau.
C'était le journal d'Hélène Roussel.